France Inter, le 18-20.
Une fois n'est pas coutume, on va parler d'amour ce soir dans Une Semaine en France. On va parler amour, handicap, dépassement de soi, don de soi, on va parler des aidants. Car ce soir dans ce studio, il y a un couple exceptionnel. Lui, vous le connaissez déjà, c'est Philippe Croizon, nageur, aventurier, amputé des quatre membres, devenu une légende depuis qu'il a traversé la Manche à la nage et relié les cinq continents de la même façon. Philippe Croizon qui a aussi fait le Dakar et qui s'apprête à 51 ans à devenir humoriste. Elle, c'est Susanna Sabineau, sa compagne, qui depuis 13 ans est de toutes les aventures ensemble. Ils viennent d'écrire « Ma vie pour deux » et quand je dis « ensemble », j'exagère un peu car le livre, c'est surtout elle qui l'a écrit. Lui, il est allé de ses commentaires, parfois penauds. Ils nous diront pourquoi ce livre a vu le jour. Également au sommaire de cette émission, préparée par Irène Menem et réalisée par Marie-Annick Rimbaud, l'actualité de la semaine, comme tous les vendredis, et un reportage sur les difficultés professionnelles auxquelles sont confrontés les aidants. Juste avant 19h, comme tous les vendredis, les bonnes ondes de Sandrine Houdin ce soir, Ciné Ma Différence, une association qui propose des séances de cinéma pour ceux qui souffrent de troubles du comportement, des spectateurs qui ailleurs sont souvent jugés indésirables. À 19h20, au téléphone sonne, tout à fait autre chose avec ces questions. À quoi sert le Parlement européen? Comment fonctionne-t-il? À un mois et demi du scrutin, on tâchera de faire un peu de pédagogie avec nos invités. Quatre eurodéputés qui ne se représentent pas et qui connaissent bien le fonctionnement de cette institution. Alors n'hésitez pas à les appeler au 01 45 24 7000.
Claire Servageant. Une semaine en France.
Bonsoir Philippe Croizon, bonsoir Susanna Sabineau.
Bonsoir.
Alors Philippe Croizon, on a l'habitude de vous voir seul quand vous sortez un livre, quand vous réalisez un exploit. Mais là, eh bien, ce livre, Ma vie pour deux, vous le publiez ensemble, donc chez Artaud, tous les deux. C'est vous, Susanna Sabineau, qui avez pris l'initiative de ce livre ?
Oui, c'est moi, parce que j'avais envie d'écrire notre histoire, mais d'une autre manière, en fait. Parce qu'on connaît Philippe pour tous les exploits qu'il a fait, mais on connaît moins comment il a pu réaliser ses exploits. Et dedans, je raconte les difficultés des entraînements, comment accompagner Philippe, comment aimer une personne handicapée, et puis plein d'autres choses
c'est
à
un
découvrir.
Petit le cri de révolte d'une femme qui n'est jamais sur la photo, en fait, et qui a envie de dire « j'existe, moi », et puis c'est, tous ces exploits, c'est aussi grâce à moi, c'est ça ?
Un peu, oui, aussi, parce qu'on est tous, on a tous besoin des uns des autres pour réaliser plein de choses. Je suis un peu la femme de l'ombre, bien qu'il parle de moi partout dans ses conférences, mais c'est vrai que j'avais envie d'écrire ça parce que c'était vraiment un exutoire pour moi. J'avais envie de faire savoir aux personnes ce que j'avais moi aussi réalisé à ses côtés.
Effectivement, et c'est pas rien. Donc au début, Philippe Croizon, vous ne deviez pas intervenir, vous, dans ce livre. Comment ça s'est passé ? C'est votre éditeur qui vous a dit « Oh là là,
ouais, c'est mon éditeur.
Il faut peut-être réagir ».
Complètement. Susanna, quand elle m'a dit « Écoute, je veux écrire un livre, j'ai besoin de cet exutoire », parce que c'est vrai qu'on a eu des moments très très difficiles. Tout le monde retient la cerise sur le gâteau, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, la Manche, les cinq continents, mais avant d'atteindre ces objectifs-là, il y a 2 ans, 5 ans d'entraînement, et 5 ans d'entraînement très très dur, c'est manger, dormir, nager, et mon ange gardien, qui est juste à côté de moi, qui a écrit ce livre, c'est Susanna, et quand elle m'a dit « j'ai besoin d'écrire ça », déjà j'ai commencé à flipper un petit peu, je dis « mais t'es sûr ?» Alors je ne l'ai pas entendu, plusieurs fois elle me l'a dit, je ne l'ai pas entendu, et une fois elle me l'a dit un peu plus fortement, je dis « bah écoute, d'accord, commence à écrire », elle écrivait, et de temps en temps elle m'a écarté, et de temps en temps elle m'a amené des passages, et je lisais, je dis « waouh !» Je dis « c'est moi ça ?» J'ai vraiment, tu me voyais comme ça. Enfin, j'étais vraiment aussi dur que ça avec toi pour atteindre l'objectif. Et elle m'a dit oui, oui, oui. Et vu que Susanna est dans la protection, toujours elle me dit, si tu veux, je peux changer, je peux modifier 2-3 trucs. Je dis non, surtout ne change rien. C'est ton livre, c'est ton exutoire. Et quand je l'ai envoyé à l'éditeur, effectivement, chez Artaud, ils m'ont dit non, mais attends, t'es sûr, tu veux vraiment publier ça? Et ils m'ont dit, bah alors, c'est qu'à la fois que tu réagisses. C'est pour ça, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des petites réactions penaud.
Voilà, c'est ça. À chaque fin de chapitre, le petit commentaire de Philippe Croizon, pas toujours très, très fier. Susanna Sabineau, ce qu'il faut quand même dire, et c'est important, c'est que c'est quand même en grande partie grâce à vous que Philippe Croizon est devenu l'aventurier qu'il est devenu. Parce que vous, c'est parti de quoi? Au début, sur son canapé devant la télé, vous en aviez assez de le voir comme ça et vous lui avez dit, bouge-toi et puis il faut faire des trucs.
Oui, moi, je suis quand même super active. Et quand je voyais Philippe comme ça dans son canapé, ça me rendait triste. Alors quand il a eu cette idée de traverser la Manche à la nage, je me suis dit c'est une aubaine. Il va pouvoir sortir, s'entraîner, faire du sport. Voilà, mais je pensais pas que ça allait engloutir toute ma vie en fait à son service, parce que c'est être tout le temps avec lui, porter ses affaires, l'emmener aux entraînements. Donc j'étais complètement engloutie par ses entraînements.
Mais à l'arrivée, il y a eu quand même un exploit incroyable. On va juste se remettre dans l'oreille votre arrivée justement après cette traversée de la Manche. proches.
J'arrive même pas à réagir. Je crois que tout à l'heure, j'ai eu un gros moment d'émotion. Tout le long de la traversée, j'avais des moments, une boule qui montait comme si j'allais chialer, quoi. Et là, je criais dans mon tuba, je dis non, reconcentre-toi, repars. Et là, je suis perdu. Tout le long dans ma tête, dans mon corps, j'étais bien. Il y a des moments où j'ai eu froid. Après, j'ai eu mal aux épaules, j'ai eu mal au dos, j'ai eu une crise au ventre aussi. Mais là, je continuais, j'avançais. Voilà, j'étais prêt et j'ai content, j'ai gagné.
Et voilà, ça c'était en septembre 2010, Philippe Croizon, ouais. sacré exploit qui, voilà, on a retenu surtout l'arrivée.
C'est ça, c'est ce qu'on retient surtout l'arrivée, mais les deux ans d'entraînement avant d'arriver là. Enfin, il faut imaginer, j'étais pas sportif, j'avais 40 ans, j'étais gras comme un lardon. Enfin,
vous aviez jamais fait de natation en plus,
jamais,
c'est ça.
Jamais, je nageais comme une pierre au fond de l'eau, quoi. Et donc cet objectif, il était venu dans ma tête parce que j'avais vu, en me réveillant, j'avais vu une jeune fille traverser la Manche à un âge sur mon lit d'hôpital, à la télévision. Mais comme vous le dites tout à l'heure, Susanna, elle est très modeste, mais elle m'a donné des ailes parce que par amour, enfin, elle m'a plutôt donné des palmes. Et à chaque fois qu'il y avait de la difficulté, elle exprime très bien dans le livre, quand on n'allait pas bien, que l'entraînement était trop dur, que c'était trop violent, combien de fois je lui disais, tiens le coup chérie. Tiens le coup, on va y arriver. Et si on y arrive, on va changer notre vie. On va arrêter de vivre sous le seuil de pauvreté parce que les personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté aujourd'hui encore dans le pays. Moi, j'avais que l'allocation adulte handicapé. Je pouvais pas vivre avec ça. Et je lui dis, si on va traverser la Manche, si on va au bout, si je réalise mon rêve, notre rêve après, parce que je l'ai embarqué là-dedans, on va changer notre vie.
C'est vrai que c'est un sacré investissement, Susanna Sabineau, parce que c'est beaucoup de temps, au détriment des enfants,
hein, oui,
qui étaient petits, vos filles.
Et oui, elles étaient petites. Et c'est vrai
c'est tous les jours, dimanche compris.
Hein, dimanche compris, hein, surtout les week-ends, où c'était encore plus... Enfin, il y avait 7 heures les week-ends et 5 heures la semaine. Donc ça me prenait énormément de temps, il m'en restait plus pour m'occuper de mes enfants. Donc j'avais ce sentiment de culpabilité d'abandonner la famille. Mais d'un autre côté, j'étais tiraillée par aider Philippe à réaliser son défi.
Alors Philippe Croizon, ce qui est assez incroyable, c'est qu'il y a cet exploit de la traversée de la Manche à la nage. Vous ensuite, vous vous dites on va continuer. Et puis vous montez avec votre complice Arnaud Chasserie un autre projet, relier les 5 continents à la nage. Et là, vous êtes quand même un petit peu gonflé, c'est que vous ne le dites pas à Susanna Sabineau.
Ben non, j'ai peur.
Et vous l'annoncez un beau jour à la télé.
Ben oui, parce que j'ai tellement peur de sa réaction même. Parce qu'elle m'avait dit surtout s'il te plaît, arrête. Arrête, je t'ai donné 2 ans de ma vie là comme ça, mais arrête, ne va pas plus loin. Et c'est vrai que je voulais pas me séparer de mon équipe, je voulais plus retourner dans mon canapé. Et avec Arnaud, on est parti dans le délire de vouloir relier 5 continents. Et quand on se contactait, on parlait du Club des 5, le livre, pour en code. Et un jour, ouais, effectivement, sur un plateau de télé, c'était Sophie Davant qui attendait le micro à Susanna, lui dit « Vous l'aimez très fort, oui. Mais alors vous le suivrez partout tout le temps, est-ce que vous l'aimez très fort ?» Bah oui. Et là, elle lui dit « Mais alors quand il va relier les 5 continents à la nage ?» Et là, il n'y a pas eu de réponse. Et effectivement, quand je suis sorti du plateau télé, je me suis fait descendre en flammes. Et après, au fur et à mesure des semaines et des mois, on est reparti tout doucement à l'entraînement. Mais en la laissant un petit peu plus tranquille.
Voilà, enfin, n'empêche que vous avez été après Susanna de toutes les aventures, hein, y compris du Dakar.
Oui.
C'est pas rien tout ça.
Non, c'est des formidables aventures. On va à la rencontre des peuples, on pilote des voitures, on voit d'autres mondes, si vous voulez. Il y a plein de partages, c'est des moments exceptionnels que je ne pensais pas vivre un jour. Et voilà, c'est grâce à notre rencontre à tous les deux que plein de choses ont pu se faire. Donc, je lui dis merci pour tout ce qu'on a pu faire ensemble.
Et vous dites même, j'ai la certitude que je ne serais plus avec lui aujourd'hui si je ne lui avais pas permis d'aller au bout de ses rêves.
Oui, parce que s'il était resté dans son canapé, ça aurait été compliqué. Donc, je pense qu'on a eu que cette opportunité de traverser la Manche à la nage nous a sauvés. Même si ça a été difficile... Ça nous a sauvés.
Alors j'ai dit qu'on allait parler d'amour. On a déjà commencé, hein, d'une certaine façon, à parler d'amour. Mais c'est vrai que dans ce livre, vous ne cachez rien, ni les conditions de votre rencontre, ni Susanna Sabineau, l'appréhension qui a été la vôtre, hein, quand vous l'avez rencontrée, grâce à un site de rencontre, quand vous avez compris l'ampleur de son handicap et que vous vous êtes dit comment ça va se passer, hein.
Quand on s'est rencontrés sur Internet, je cherchais plutôt des amis. Donc, je cherchais pas vraiment quelqu'un pour vivre. Je me suis dit, pourquoi pas une personne handicapée? Puis c'est en parlant avec Philippe, tous les soirs on passait au moins, je sais pas, toute la soirée au téléphone. Et c'est là que j'ai appris à l'aimer, en fait. J'aimais ce qu'il avait dans sa tête. J'étais pas accrochée au physique, finalement. Je me suis accrochée à ses idées, à sa philosophie de vie. Et c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse de lui.
Malgré toutes les difficultés, y compris de la famille, hein, qui ne comprenait pas forcément.
Pour ma mère qui s'est occupée de personnes handicapées, elle me dit tu te mets quelque chose de lourd sur le dos quand même. Et puis j'ai dit je suis jeune, t'inquiète pas maman. Puis ma sœur, elle était plus drôle parce que j'avais connu une vie un peu plus compliquée avec un ex qui était assez violent. Et elle m'a dit tu sais au moins celui-là il te courra pas après pour te taper dessus. il a pas de bras, pas de jambes. Donc voilà, c'était, elle l'avait pris plus simplement.
Voilà, mais alors juste pour remettre les choses dans le contexte, vous étiez séparés de cet ex avec trois petites filles, oui. Et vous, Philippe Croizon, votre femme, elle était partie plusieurs années après votre accident. Vous aviez déjà deux garçons, hein. Ouais. Vous dites, ma dépendance physique, elle pèse sur Susanna dans chaque instant de notre vie.
Oui, parce que moi, effectivement, il y avait 5 enfants à la maison et le plus gros bébé de la famille, c'est moi, quoi. C'est moi. Je, en termes d'autonomie, effectivement, à la maison, je suis autonome parce que on a réussi à avoir pas mal de matériel pour mon autonomie. Mais en dehors, là, par exemple, quand je suis à Paris, je vais dans un hôtel, j'ai besoin d'une personne en permanence, quoi. Sans mes mains, sans mes bras, c'est compliqué de. Même si j'arrive à trouver des astuces, mais effectivement, c'est un poids énorme. Et là, on en revient effectivement aux aidants, la difficulté d'être un aidant et à la fois d'être une femme aimante et d'être une maman. Enfin, c'est juste une torture. C'est un tiraillement.
En tout cas, ce livre rend à César ce qui revient à César. Et,
bon,
et Philippe Croizon, effectivement, vous ne vous épargnez pas vous-même, vous dites...
Non, pas.
Vous avez même dit une fois, je me suis comporté comme un gros con.
Oui, mais parce que c'est... Vous savez, quand on est dans l'univers du handicap et que quelqu'un qui vous aime devient votre aidant, que ce soit votre épouse ou votre mari, bizarrement, vous ne vous rendez plus compte que ça devient un aidant. Et vous devenez, je dirais pas
exigeant.
Un tyran, exigeant. C'est-à-dire, c'est maintenant, tout de suite. C'est pas dans 2 heures. Et pourtant, elle a autre chose à faire. Elle est en train de, je sais pas, faire un dur passage ou faire autre chose. Peut-être prendre un peu de loisir pour elle, lire un livre. J'ai soif. Oui, attends, chérie, j'arrive. Non, j'ai soif. T'as pas compris. C'est maintenant que j'ai soif. C'est pas dans 10 minutes. Voilà. On devient comme ça sans s'en rendre compte. Et ce qui nous a plu avec Susanna, c'est que dernièrement, on a reçu pas mal de messages de personnes handicapées qui ont lu le livre et qui ont dit, je me suis retrouvé et moi aussi, j'étais comme ça avec mon aidant. Avec mon mari ou avec mon épouse.
C'est sûr que beaucoup de gens qui vous écoutent ce soir vont se retrouver dans tout ce que vous nous avez raconté et ce que vous racontez dans cet ouvrage. On va passer maintenant, parce que c'est la règle du jeu, à l'actualité de la semaine. Comme tous les vendredis, grâce à ce mix qui a été mis en ondes par Clément Nouguier, au programme un grand débat qui n'en finit pas, un remaniement à minima, une agression en plein Paris qui montre à quel degré d'intolérance certains en arrivent. Mais on commence exceptionnellement par un crochet de l'autre côté de la Méditerranée.
C'est un premier pas vers le succès, mais il faut continuer à sortir tous les vendredis jusqu'à ce que tout ce pouvoir dégage.
Une page se tourne en Algérie avec la démission d'Abdelaziz Bouteflika, mais la suite de l'histoire reste à écrire. En France, 3 petits nouveaux font leur entrée au gouvernement. Parmi eux, Sibeth Ndiaye qui prend le relais de Benjamin Griveaux comme porte-parole du gouvernement.
Les plateaux télé, les matinales, la presse, les réseaux sociaux, tu seras une messagère qui se lève tôt et qui se couche tard, parfois très tôt et souvent très tard.
La conseillère en communication du chef de l'État passe donc de l'ombre à la lumière. Elle n'oublie pas d'évoquer son parcours, elle qui est née au Sénégal.
Cette marche, je la franchis avec la fierté de servir la France. Ce pays que je me suis choisi.
Emmanuel Macron sur le plateau des Glières, haut lieu de la résistance, dimanche dernier en Haute-Savoie. À ses côtés, Nicolas Sarkozy, mais pas François Hollande.
Il a eu la gentillesse de me convier. Il n'y avait aucune raison, je refuse, bien au contraire.
Finalement, Emmanuel Macron, aujourd'hui, est plus proche des idées de Nicolas Sarkozy que des miennes.
François Hollande qui a la dent dure contre son successeur, ça ne plaît pas à tout le monde et notamment à Gérald Darmanin, le ministre des Comptes Publics.
Manifestement, le proverbe que j'ai chez moi dans le Nord fonctionne. Grand causeux, petit faiseux.
Et aux européennes, quel sera le choix de François Hollande?
Je voterai pour les socialistes, je vote toujours pour les socialistes. Faut-il encore qu'il y en ait?
Et toc, encore une pour la route. Sinon, vous reprendrez bien encore un peu de grand débat national. Un débat qui s'éternise et qui a même donné lieu à un débat sur le débat cette semaine à l'Assemblée. Le député insoumis Alexis Corbière adore discuter, mais là, franchement, il trouve que ça fait trop.
Organiser un grand débat à l'Assemblée, dont le but de l'Assemblée, c'est de débattre, c'est un peu grotesque.
Marine Le Pen, elle aussi, commence à trouver le temps long.
On a débattu avec les maires, puis après on a débattu avec les femmes, puis on a débattu avec les banlieues, puis on a débattu avec les enfants, puis là, on va débattre avec les députés, et puis demain, on va débattre avec les collectionneurs de nains de jardin. On voit bien qu'en fait, ils cherchent à gagner du temps.
Pourtant, il faudra bien prendre des décisions à l'issue de ce grand débat, car d'autres sujets commencent à sentir le roussi. C'est le cas des retraites, c'est aussi le cas de la loi Blanquer, dite loi pour une école de la confiance.
La loi Blanquer, c'est mortifère.
La loi Blanquer est mortifère, disent les enseignants qui ont volé la vedette aux Gilets jaunes samedi dernier dans la rue. Des profs que le ministre accuse de désinformation.
C'est un renforcement de l'école maternelle qui est clairement prévu. Donc dire le contraire est un bobard. Supprimer des écoles rurales. C'est faux, c'est un bobard, c'est l'inverse. C'est un bobard.
Là, les plus gros bobards en ce moment, c'est de dire que nous, on n'a pas compris les textes.
Touche pas à mon école.
Pour le reste, quoi de neuf cette semaine ? Eh bien, une agression filmée contre une personne transgenre en plein Paris. La victime, Julia, a tenu à raconter ce qui, pour elle, n'est pas exceptionnel.
J'ai voulu descendre pour prendre le métro. Il y a trois individus qui m'ont bloqué la route. Un d'eux me dit « T'as des seins, en fait, est-ce que je peux toucher ?» Et à ce moment-là, il a porté sa main sur ma poitrine. Et là, je me suis retrouvé face à un homme qui a sorti son sexe devant moi. À ce moment-là, la personne qui m'a touché la poitrine est revenue vers moi. M'a mis une gifle. La violence envers cette communauté, elle est quotidienne.
Les agressions LGBT-phobes de plus en plus nombreuses, les associations les dénoncent, la ministre des Sports aussi. Et pas question pour Roxana Maracineanu de parler de folklore dans les stades à ce sujet.
Comme on le voit aujourd'hui avec les propos racistes, on peut tout à fait interrompre un match à partir du moment où on entend des chansons homophobes ou un geste ou une parole homophobe de la part de ceux qui sont sur le terrain. Il faut se poser la question, quelles sont les valeurs que j'ai envie de transmettre à mon enfant ?
On termine avec les yeux brillant de Kylian Mbappé, le jeune prodige du foot français, a été adoubé par le maître Pelé cette semaine à Paris. Il en est encore tout retourné.
Pour moi, c'était la légende absolue. De le voir en cassette était déjà bien, mais de le rencontrer aujourd'hui, c'était une fierté sans nom.
Et encore merci à Clément Nouguier. Une semaine en France, toujours en compagnie de Philippe Croizon et Susanna Sabineau. Est-ce que vous souhaitez peut-être réagir à cette actualité, Philippe Croizon ?
Oh, l'actualité, surtout l'actualité des Gilets jaunes. On parle beaucoup des Gilets jaunes, mais il y a aussi des personnes en situation de handicap dans les manifestations. Il y en
sur
a
les
beaucoup.
Ronds-points, beaucoup.
Et sur les ronds-points, il y a beaucoup de gens qui manifestent. Il y a eu beaucoup de promesses de fête de la part du président de la République pendant les élections. On se souvient aussi de sa carte blanche lors du grand débat qui a été faite pour les personnes handicapées. Et donc, il y a eu un rêve extraordinaire, mais vraiment, une sorte d'enthousiasme. Tout le monde s'est mis à rêver en disant, ça y est, enfin, il y a eu la loi de 2005 sur les personnes handicapées, et là, maintenant, on va avoir un président qui va vraiment faire les choses, ça va vraiment bouger. Et la déception est monstrueuse. On le voit bien, que ce soit pour les Gilets jaunes ou pour les personnes handicapées, la déception est monstrueuse. Et là, on le voit pendant les grands débats, quelques personnes handicapées ont réussi à atteindre l'objectif d'aller au grand débat et de pouvoir poser quelques questions. Mais ce grand débat, je pense qu'on est encore une fois dans un rêve éveillé, complètement fou, et que malheureusement, si le président de la République ne nous sert pas quelque chose à la fin, que ce soit pour les Gilets jaunes ou surtout pour les personnes en situation de handicap, parce que malheureusement, je leur dis encore, vivre sous le seuil de pauvreté quand une personne handicapée, c'est encore plus compliqué qu'une personne valide, je le revendique. Vous avez beaucoup de personnes handicapées aujourd'hui qui vont manger à la Croix-Rouge, au Secours Populaire, partout où ils peuvent trouver de la nourriture, parce que c'est pas possible, on peut pas y arriver. Donc ces gens-là, aujourd'hui, ils attendent effectivement qu'après le grand débat, il y a une grande réponse,
voilà, parce que
mais vraiment une grande réponse.
L'allocation adulte handicapé, c'est 860 euros par mois actuellement. Et en plus, on tient compte des revenus du conjoint. Ça fait partie des revendications.
Ah, ça, c'est affreux.
Oui. Et vous le dites, hein, Philippe Croizon, le handicap, c'est du luxe. Vous, rien que l'aménagement de votre voiture, 60 000 euros.
Oui. Ouais, est-ce que c'est une technologie super super high-tech ? Moi, je conduis sans toucher le volant ni les pédales avec un joystick. Donc effectivement, il faut beaucoup de... Et ça, c'est grâce à mes parents, grâce à ma famille que j'ai pu obtenir ce véhicule-là. Parce que mes parents, ma famille, ils ont créé des lotos, des dîners dansants, des choses comme ça. Ils ont créé une association pour m'offrir la chose la plus importante dans ma vie. Ils m'ont offert mon autonomie. Mais ça, j'ai eu la chance, je suis une personne handicapée qui a eu énormément de chance dans notre pays, que j'ai une famille, des amis qui m'ont soutenu. Mais c'est pas la majorité des personnes en situation de handicap dans notre pays. Malheureusement, la majorité est là et attend en espérant qu'un jour, ils vont vraiment être considérés comme de véritables citoyens. Vous savez, il y a un mot qui m'emmerde, pardon, excusez-moi, mais c'est le mot handicap. Le mot handicap nous pourrit la vie. Il faut trouver une autre solution. J'aime à dire qu'on est des personnes capables autrement. Aujourd'hui, vous avez des jeunes qui ont bac plus 3, bac plus 5, qui ont envie d'accéder à l'emploi, qui ont envie de vivre du fruit de leur travail et ne pas dépendre de la société.
Alors,
ça, c'est le plus important.
Je note, personne capable autrement. Et je vais essayer à l'avenir de dire ça à la place de personnes handicapées. On a beaucoup parlé grand âge, dépendance ces derniers temps. À cette occasion, on a parlé des aidants qu'on a tendance à oublier. Vous venez, Susanna Sabineau, de nous rappeler à quel point leur rôle était essentiel. Ils sont des millions à tenter tenté de concilier tant bien que mal activité professionnelle et dévouement familial, mais au prix de bien des concessions au niveau professionnel. C'est un reportage de Lisa Guyenne.
Être à la fois aidant et actif professionnellement, c'est une double casquette difficile à porter. 80% des salariés concernés avouent qu'ils ont du mal à concilier les deux. Benjamin Suchard est le directeur de Youpies, une plateforme de services à domicile. Il veut inciter les entreprises à prendre en compte ce statut.
Il n'y a que 15% des entreprises qui font de la question des salariés aidants un thème majeur de leur réflexion.
Un thème dont on a encore du mal à parler sur son lieu de travail, selon lui.
C'est aujourd'hui plus tabou de dire lorsqu'on est salarié qu'on a un parent dépendant que lorsqu'on est jeune parent. Et donc il est important aussi de former les managers à accepter de parler de ce sujet qui a un vrai impact sur la productivité de l'entreprise.
Car aujourd'hui, 3/4 des salariés aidants disent être moins concentrés, moins efficaces au bureau. Outre la difficulté psychologique d'aider un parent dépendant, ils sont nombreux à rogner sur leur temps de travail.
Vous allez avoir tout ce parcours de soins, d'aide qui est extrêmement complexe. Il faut le faire notamment quand les administrations, quand les organismes sont ouverts. Et donc, ça veut dire tous les jours énormément de travail si vous n'avez pas de solution d'accompagnement.
Une tendance qui risque de s'accroître avec le vieillissement de la population. En 2030, les aidants devraient représenter un quart des actifs.
Susanna Sabineau, combien d'aidants actuellement entre...
Alors, on est 11 millions d'aidants en France, 11 millions de personnes qui n'ont pas de statut, qui ne sont pas reconnues, qui sont totalement invisibles et qui attendent aussi que le gouvernement fasse quelque chose pour aider les aidants.
Les personnes qui sont épuisées, moi j'ai appris quelque chose en lisant votre livre, c'est que l'espérance de vie des aidants est plus courte que celle du reste de la population.
15 ans, oui. C'est ce qui a été calculé. Hormis ça, l'aidant, lui, n'a pas de temps pour lui, il ne peut pas s'occuper de lui comme il devrait le faire si, en temps normal. Et il s'épuise beaucoup plus vite. Et n'ayant pas de temps pour s'occuper de lui, pour prendre des rendez-vous pour les médecins, il tombe malade aussi et souvent, c'est fatal.
Il y a une loi quand même qui a affirmé la notion de droit au répit, mais ça va pas bien loin.
Non, le droit au répit, en fait, dans les entreprises, ils ont instauré le droit au répit pour les personnes qui sont aidantes, mais ce droit au répit n'est pas rémunéré. Donc, sachant déjà que l'aidant n'est pas vraiment bien rémunéré, si en plus de ça, il prend du temps pour aider gratuitement, c'est simplement pas possible. Il y a que 2% des personnes qui prennent ce droit au répit, pardon.
Alors, il y a les aidants adultes, puis il y a aussi les aidants enfants. Hein. Il serait 500 000 en France de moins de 25 ans. Philippe Croizon, un petit mot quand même concernant vos garçons, parce que votre fils aîné, lui...
Jérémy, oui. D'ailleurs, je lui avais laissé un témoignage dans mon premier livre, J'ai décidé de vivre. Un témoignage très fort, très puissant. Puisque, quand sa maman est partie à l'âge de 14 ans, et lui, il a fallu qu'il s'occupe de papa. Un papa qui devient dépressif, qui fait des bêtises, qui veut mettre fin à ses jours, qu'il retrouve deux fois. Et qui doit s'occuper de son petit frère, doit fermer les volets, doit nous faire la nourriture, et après, il avait peur, il avait plus de vie d'adolescent.
On inverse les rôles, dans ces cas.
On inverse les rôles, ouais. Et puis là, le papa, quand il était plus étanche du tout, il était plus là, il était dans une autre galaxie. Et c'est Jérémy qui est devenu un aidant, et un aidant malgré lui. Mais aujourd'hui, tout s'est reconstruit au fur et à mesure du temps. Aujourd'hui, on s'aime très très fort. Enfin, les trois garçons sont soudés avec les filles de Susanna. Enfin, c'est une famille recomposée très très forte. Mais Jérémy est toujours le leader. Jérémy est le leader, il est la force tranquille de la famille, ouais, vraiment.
Alors, il y a aussi dans votre famille une aide de vie. On va peut-être en dire un mot de Suzy, parce que ça fait un moment qu'elle est là.
Oui, c'est depuis le début de mon accident. Il a fallu que je trouve quelqu'un et Suzy est arrivée dans ma vie pour m'aider au quotidien tous les matins. Et c'est vrai que ça a été au départ quand j'ai rencontré Susanna, que Susanna est arrivée, il a fallu aussi qu'elle accepte qu'il y ait déjà une aidante dans la maison, qui vienne m'aider à faire ma toilette le matin, qui vienne me donner mon petit déj et ainsi de suite. Donc c'était assez, vu que Susanna a un esprit très très large et elle englobe beaucoup de choses, elle a accepté, oui.
Susanna, c'est une forme de cohabitation, mais.
Mais c'est une vie, c'est une vie à trois, oui. Faut s'adapter parce que c'est vrai que d'un côté, c'est vrai que j'aurais voulu être pour Philippe plus, mais on peut pas. Donc il faut savoir se faire aider aussi par des personnes qui sont aptes à ça.
Vous dites, Philippe Croizon, dans votre livre Plus fort la vie, Suzy, pour l'une je suis un objet de soin, pour l'autre je suis un objet de désir. Vous vous souveniez pas de ça?
Ouais, si. Mais chérie, je suis toujours un objet de désir, rassure-toi.
Alors, on va saluer à présent la mémoire d'un parolier qui nous a quittés cette semaine. Maurice Pion avait 97 ans. Cet homme, qui était aussi musicien, avait écrit les paroles de quelques 1000 chansons, dont 250 rien que pour Henri Salvador, avec qui il a travaillé pendant 60 ans. Et parmi ces chansons, eh bien, il y a le loup, la biche et le chevalier, qu'on appelle souvent la chanson douce.
Une chanson douce que me chantait ma maman, en suçant mon pouce, j'écoutais en m'endormant. Cette chanson douce, je veux la chanter pour toi, car ta peau est douce comme la mousse des bois. La petite biche est aux abois, dans le bois se cache le loup. Mais le brave chevalier passa, il prit la biche dans ses bras. La 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 la, la petite biche, ce sera toi si tu veux. Le loup on s'en fiche, qu'entre lui nous serons deux. Une chanson douce que me chantait ma maman, chanson douce pour tous les petits enfants. Pour le joli conte que voilà, la biche en femme se changea. La 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 la, et dans les bras du beau chevalier, belle princesse elle est restée à tout jamais. La belle princesse avait des jolis cheveux, même caresse se vit au fond de tes yeux. Cette chanson douce, je veux la chanter aussi pour toi, ô ma douce, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie, jusqu'à la fin de ma vie.
La chanson douce, Henri Salvador, paroles de Maurice Pion, choix musical signé pour nous, Djoubaka.
France Inter, le 18-20, Claire Servageant.
Une semaine en France, toujours avec Philippe Croizon et Susanna Sabineau. Philippe Croizon, à ce stade de l'émission, on revient toujours sur le parcours de la personne, donc on va redire un petit mot quand même de ce qui vous est arrivé. C'était il y a 25 ans,
oui.
Mars 94, cet accident qui a changé le cours de votre vie. Vous aviez 26 ans à l'époque, vous étiez ouvrier dans la métallurgie, papa d'un petit garçon de 7 ans, votre épouse était enceinte de 7 mois, vous vous apprêtiez à déménager, mais avant cela, vous avez décidé de décrocher l'antenne télé du toit de votre maison, et c'est là que l'inconcevable s'est produit, cet arc électrique qui s'est formé et qui a traversé votre corps.
J'avais pris une échelle d'aluminium que j'avais plaquée contre le pignon de la maison, je m'étais cordé la cheminée pour pas tomber, j'avais prévu toute la sécurité, mais j'avais bien vu la ligne électrique derrière, mais je me suis dit ça passe, il n'y a pas de raison. Et j'ai déboulé l'antenne, j'étais très très fort avec les mains, et pour avoir plus de force, j'ai posé mes deux tibias sur le barreau de la chaîne d'aluminium, ce qui a créé un contact avec la terre, et là effectivement 20 000 volts a traversé mon corps. Et le pire, c'est que là, à la régie d'électricité, ils ont cru que c'était une branche qui était tombée sur la ligne. Et pour faire sauter la branche, ils ont rallumé trois fois le courant. Donc au premier impact, c'est un arrêt cardiaque. Deuxième impact, je reviens à moi. Et troisième impact, je vais rester sous tension. Et il y a un voisin qui monte avec un extincteur pour m'éteindre à deux reprises. Et on m'emmène à l'hôpital. Et là, effectivement...
Avec en plus un incroyable retard dans l'arrivée des secours. Hein.
Ah oui, un truc, ouais, ça c'est un truc de fou. C'est les pompiers. Parce qu'à l'époque, il y avait le découpage. Moi, j'habitais dans le département de la Vienne. Et à 4 km, c'était le département de l'Indre-et-Loire. Il y avait des pompiers. Mais on m'a envoyé les pompiers qui étaient à plus de 20 km. Alors, et quand ils sont arrivés, ils sont venus avec une 4L. Ils ont dit, bon, on ne peut pas faire grand-chose. Ils ont appelé leurs collègues qui étaient à 4 km. Enfin, c'est carrément ubuesque. Mais pour rajouter une petite pointe d'humour dans cet accident qui est dramatique, effectivement. Mais le plus dur pour moi dans l'accident, c'est quand j'ai reçu ma facture EDF. Bon, ça a été assez compliqué.
Comme vous dites. Toujours est-il, Philippe Croizon, que les médecins ont tenté de sauver, oui, vos membres,
complètement
calcinés, mais ça n'a pas été possible. Il y a eu des semaines et des semaines d'intervention, d'amputation, de soins sous anesthésie, des heures de bloc opératoire.
100 heures de bloc opératoire. Et moi, je dormais. Enfin, j'ai dormi pratiquement pendant 2 mois. Et la décision revenait à mes parents, à mon frère et à mon ex-femme. C'était à eux que venait la décision. Un jour, on leur dit, on est désolé, on peut pas sauver le bras droit. Et quelques jours plus tard, le bras gauche. Quelques semaines plus tard, la jambe droite. Et ainsi de suite, quoi. Le découpage est en règle au fur et à mesure des 3 mois que je suis resté en milieu stérile à Paris. Et après, effectivement, quand moi je me réveille, je me dis, mais c'est bon, j'ai plus de vie, quoi. Tout s'arrête là maintenant. Enfin, je peux pas imaginer avoir une vie à l'âge de 26 ans. J'ai vécu pendant 26 ans avec des bras et des jambes. Est-ce que je peux imaginer avoir une vie après? Donc, non, effectivement, je me laisse partir. Et tout le monde vient tenter sa chance pour essayer de me ramener à la vie. Mes parents, mon frère, mon épouse, même ma grand-mère. Ma grand-mère était un pilier dans ma famille, c'était un rock. Et elle est venue derrière la vitre stérile, elle m'a dit, je te ferai du fromage blanc et de la banane écrasée, reviens mon petit garçon s'il te plaît. Et c'est un oncle de mon ex-femme qui est venu et qui m'a dit, écoute, moi j'ai perdu mon papa très jeune, toi t'es encore vivant, il y a Jérémy qui est là, il y a aussi Grégory qui t'attend, mon petit bébé, parce que mon petit bébé il est né 2 mois après l'accident, quand je suis arrivé au monde une nouvelle fois, mon petit bébé est arrivé au monde en même temps que moi, il m'a dit, ça serait bien que tu sois là pour les guider sur le chemin de la vie, t'es le petit gars. Et c'était un nouveau coup de jeu, mais virtuel cette fois-ci, qui m'a ramené à la vie.
Voilà, alors après, il y a eu toutes ces périodes très difficiles dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous dites, de toute façon, je suis mort le 5 mars 1994, ma vie s'est arrêtée ce jour-là, et tout ce que j'ai vécu après, c'est du bonus. Mais n'empêche que le bonus, il y en a, hein, parce que quand on voit tout ce que vous avez fait depuis, Philippe Croizon, on a parlé de la traversée de la Manche, les 5 continents, le Dakar, vous avez été chroniqueur sportif, vous avez couvert les Jeux paralympiques de Londres. Vous faites des conférences, vous allez expliquer ce qui vous est arrivé devant toutes sortes de publics, des entreprises, des enfants.
Bah, tout à l'heure, j'étais avec des enfants, par exemple, à l'UNESCO, il y avait 1400 enfants. La plus grosse conférence était Bercy, il y avait 10 000 personnes, c'était quelque chose d'extraordinaire. Je suis à peu près entre 100 et 150 conférences à l'année, c'est vraiment le... Mais quand je suis sur scène, je donne tout, quoi. J'ai envie de partager. C'est ça le maître mot aujourd'hui, c'est de partager. Partager ce que j'ai vécu et transmettre à ces jeunes générations de dire que c'est possible. Tout est possible. L'impossible, c'est juste nous, c'est personne d'autre.
Ce qui est incroyable, c'est que du coup, c'est vous qui allez expliquer aux autres qu'on peut se surpasser. C'est
ça. Mais je crois que c'est le boulot des résilients. Les résilients, enfin, notre parcours fait que on est tombé très très bas et on est monté plus haut que ce qu'on était avant, quoi. C'est ça le parcours des résilients. Et je pense que aujourd'hui d'être résilient, c'est de pouvoir l'offrir et de le partager. Je le répète encore une fois, parce que c'est important. Et moi, pour moi, c'est important. J'adore ça. J'adore être sur scène et de partager avec les gens cette expérience.
Les prochains projets, on peut en parler. Susanna Sabineau, elle est au courant quand même.
Oui, ça va. Susanna est au courant. Justement, après la conférence à Bercy, où il y avait 10 000 personnes, les producteurs étaient là. Et ils m'ont dit, ça serait bien que tu fasses un one man, parce que tu nous fais rire, tu nous fais pleurer, enfin, c'est très puissant. Et là, je suis en écriture avec Jérémy Ferrari pour un one man pour le printemps ou automne 2020. Et surtout, j'ai un objectif aussi, parce que mes deux garçons m'ont dit, papa, t'as mené plein d'aventures à travers le monde. Et papa, on aimerait mener une aventure avec toi. Et ils sont très malins. Ils m'ont dit, on a bien aimé quand t'as fait le Dakar. Donc, j'emmène mes deux fils sur le Dakar 2020. Ils s'entraînent très, très fort parce que la réussite ne se fait que par le travail. Et on est encore à la recherche de partenaires, donc à bon entendeur, s'il y en a qui veulent venir avec nous. Je suis dans la transmission du tout est possible dans les nouvelles générations, dire que c'est jouable, quoi. Donc là, je les fais bosser dur, même s'ils ont un travail en même temps, il faut qu'ils atteignent leur objectif.
Susanna Sabineau, vous ferez quand même de l'aventure?
Je pense,
Le Dakar, comment vous faites? Camping-car, c'est ça?
Oui, c'est moi qui conduis le camping-car. Je vais partout avec un camping-car qui n'est pas vraiment adapté pour faire du cross, mais je l'adapte.
Philippe Croizon, ce spectacle que vous allez monter, ce rire, parce que vous avez déjà publié un livre.
Pas de bras, pas de chocolat.
Pas de bras, pas de chocolat. C'est quoi? Le rire, c'est une façon de surmonter aussi le handicap, une façon de tordre le cou aux discriminations, c'est ça?
Complètement. Au départ, quand vous avez un terrible accident ou qu'il vous arrive quelque chose de terrible dans la vie, l'humour est là pour vous sauver la vie, vraiment. C'est-à-dire qu'au départ, vous avez l'humour qui fait mal, qui pique, qui va vraiment percuter ceux que vous aimez, peut-être les blesser même. Mais vous en avez besoin pour vous, pour survivre. J'en ai un exemple flagrant, enfin les attentats au Bataclan. Souvenez-vous que tous les humoristes se sont tenus pendant une semaine. Le plomb qui était sur le peuple français pendant une semaine, tout le monde s'est tu. Et les humoristes se sont remis en route. Ils sont venus aux matinales radio, raconter des blagues sur les terroristes, raconter des blagues sur ce qui s'est passé. Et ça a été l'outil de résilience pour que le peuple se remette à respirer, recommence à démarrer une nouvelle vie tous ensemble. Et donc, c'est pour ça que c'est hyper important l'humour, pour dédramatiser un petit peu tout ça. D'ailleurs, quand je commence mes conférences, je commence toujours par une pointe d'humour pour briser cette glace. Je leur dis, voilà, je suis toujours Philippe, j'ai pas changé, quoi. On m'a juste enlevé 4 trucs. Je suis le même personnage, j'ai envie de rire comme tout le monde.
Voilà, ça c'est une façon de lutter contre les discriminations. On va voir que les personnes avec un handicap corporel, mental, physique, sont très souvent confrontées aux inégalités, même au mépris. Alors certains imaginent des solutions pour éviter d'être montrés du doigt. C'est ce qu'on va voir grâce aux bonnes ondes de Sandrine Houdin. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir.
Ce soir, des séances de cinéma pour ceux qui sont souvent jugés indésirables dans les salles obscures parce qu'ils ont tendance à parler, se lever, s'asseoir, faire du bruit, bref, à ne pas se comporter comme les autres.
C'est parti d'une maman, il y a 14 ans, Catherine Morange, mère d'un jeune garçon polyhandicapé, découvre, en écoutant France Inter d'ailleurs, qu'il existe des séances de ciné pour tout petit. Elle, qui avait déserté les salles obscures parce que son fils gênait le public, s'est dit « Pourquoi ne pas créer des séances pour tous les enfants ou adultes qui souffrent de troubles du comportement ?» Et on appellera ça « Cinéma Différence ».
Sauf que contrairement aux séances bébés, il ne s'agit pas de séances dédiées uniquement aux personnes handicapées.
Surtout pas, Catherine Morange préfère parler de séances adapté au handicap mental. Quand on est en fauteuil, qu'on veut accéder à la salle du premier, on a besoin d'une rampe ou d'un ascenseur. Et bien là, la rampe, elle est humaine. Une équipe de bénévoles encadre chaque séance pour que tout se passe bien. Sinon, tout le monde peut venir et c'est même recommandé.
Un bel exemple d'inclusion culturelle. Ciné Ma Différence est présente dans une soixantaine de villes. Vous avez assisté à l'une de ces séances.
Allez Vincent, on y va.
Marie-Pierre, deux places de ciné dans les mains.
Ah, il ramasse toujours ses petits magazines du cinéma.
Son fils connaît le chemin par cœur, c'est un habitué.
Bonjour.
Vincent, vous êtes content?
Oui. Il parle pas beaucoup, je suis désolée.
Est-ce que je peux vous demander de quoi souffre votre fils?
Il a une épilepsie sévère. Il peut, par exemple, exprimer sa joie par des... Ah voilà.
Ça veut dire que sans Cinéma Différence, c'est difficile de l'emmener au cinéma?
Je regarde pas le film, en fait. C'est compliqué de voir les gens regarder votre fils d'un regard, dire « Oh là là, il nous enquiquine, oh là là, c'est quoi cette chose ?»
C'est quoi cette chose?
Ah oui, ça c'est clair. C'est très très clair. Nous, on va souvent aussi au zoo avec Vincent, parce qu'il aime les animaux. Et des fois, j'ai des regards, des fois j'ai envie de leur dire, vous savez, les singes, c'est de l'autre côté, en fait.
Il veut y aller au cinéma.
C'est ça.
Allez, je vous laisse. Bonne séance.
Merci beaucoup. Au revoir.
Vincent monte à l'étage. Catherine Morange reste en bas pour accueillir le public, comme cette grand-mère, arrivée par hasard avec ses deux petits-enfants.
C'est une séance ordinaire, mais qui est adaptée pour permettre à des personnes qui expriment leurs émotions d'une manière un petit peu différente de la norme, d'y être également bienvenue avec les spectateurs ordinaires.
Bonne initiative. Voilà, merci.
Et cette mamie ne fait pas demi-tour.
Je pense que tous les enfants doivent savoir ce qui se passe autour d'eux. Ils doivent aussi ne pas rester dans leur petite bulle à la maison avec des parents frileux qui les protègent de tout.
Vous leur expliquerez ?
Bah évidemment. D'ailleurs, les enfants, même normaux, crient parfois très fort.
Quelle victoire pour Catherine Morange. Tellement de parents se privent de cinéma à cause du comportement de leur enfant.
Quand on est parent d'un enfant handicapé, surtout quand on est jeune parent, on est à vif. C'est-à-dire que même quelqu'un qui va simplement se retourner parce qu'il est étonné, vous le prenez mal, vous renoncez.
Angélique avait renoncé.
La première fois que j'ai emmené Astrid au cinéma, je suis sortie de la salle au bout de 10 secondes.
Pourquoi ?
Parce qu'elle a hurlé, elle s'est mise à hurler. Donc je suis sortie et je me suis dit, bah, le cinéma, non.
C'est quasiment double peine même.
Bah oui, bien sûr. Notre quotidien est difficile. D'avoir ça en plus, on se dit, mais bon sang, on a rien demandé. Là, mais même en venant, là, on est venu à pied, il y a forcément des regards.
Est-ce que c'est important pour vous que ce ne soit pas des séances dédiées?
Mais c'est génial. L'occasion, finalement, d'être avec nos enfants et à la limite d'en être fiers. Ils sont les bienvenus. Là, on a notre place. Il y a beaucoup d'endroits où on n'a pas notre place. Enfin, si, on a notre place, mais c'est une place de deuxième zone. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une place au rabais, quoi. Or, la vie d'Astrid, c'est pas une vie au rabais.
Je crois que à cause de France Inter, vous avez raté le début de la séance et Astrid serait pas contente.
Elle serait furieuse. Mais ça y est,
elle
est partie avec son papa. Justement, où ils sont? Alors, je les vois pas. Ah, ça y est, ils me font signe, donc c'est bon. Allez, mon Astridou, tu veux garder ton manteau sur toi ou on l'enlève? Non?
Astrid, est-ce que tu aimes le cinéma?
Oui, oui. Oui, oui, voilà.
Ah, puis elle a l'air, elle se balance.
Oui, non, elle est toute contente. Voilà, c'est ces petits gestes comme ça, ces petits rituels.
Je vous souhaite une très très bonne séance.
Voici l'histoire d'Ailo, comment il est né.
La lumière s'est éteinte progressivement dans les allées des bénévoles avec des lampes de poche comme Salomé. Elle fait ça depuis 10 ans.
Moi, j'ai souvenir d'une séance incroyable où il y a une maman qui devait avoir autour de 80 ans, qui est venue avec son fils, qui avait au moins une soixantaine d'années. C'était la première fois qu'ils allaient au cinéma. La maman n'était jamais allée au cinéma avec son fils.
Ça vous révolte quelque part?
Ah ben oui, c'est scandaleux.
Catherine Morange.
Le but, c'est vraiment de partager la société et la culture, c'est quand même ce qui relie les gens. Enfin, c'est ce qui doit relier les gens le plus facilement. En fait, pour les deux types de publics, c'est la découverte que c'est possible.
Fin du film.
Vous êtes heureux là?
Bah oui. Oui, j'aimais beaucoup.
Vous aimez aller au cinéma?
Ah oui.
Même les personnes avec les handicaps les plus lourds, ceux qui sont vraiment avec un polyhandicap, et on les voit, ils ont peu de moyens d'expression, mais on les voit se tendre vers l'écran pour pas en perdre une miette. En fait, à ce moment-là, ils deviennent des spectateurs comme les autres. Ça va pas durer quand ils vont sortir. Le handicap, il disparaît pas. Mais dans le partage du film, oui. Le handicap, il est pas là.
Un reportage signé Sandrine Houdin. Sachez que depuis 2 ans, l'association s'ouvre au spectacle vivant, théâtre, concert, opéra. Toutes les infos sur cinémadifférence.com et puis sur la page des bonnes ondes. Une réaction peut-être, Susanna Sabineau ou Philippe Croizon, à ce qu'on vient d'entendre, à cette initiative?
Non, mais c'est extraordinaire. Enfin, il y a plein d'initiatives de ce type-là qui font qu'on peut faire comprendre que le vivre ensemble, c'est possible, c'est réalisable. Effectivement, c'est de dire qu'il y aura une salle privée exprès pour eux, c'est difficile, mais c'est ouvert aussi au public, entre guillemets, dit en situation de valide. Donc, ça me plaît beaucoup. Ouais, c'est vraiment chouette.
Philippe Croizon, alors j'ai pas fait très attention. Vous m'avez donné la date du spectacle. C'est pour quand exactement?
Alors non, il y a pas de date. Ça sera pour le printemps ou automne 2020. Voilà. On a beaucoup de travail devant nous et pour y arriver. C'est un défi, attention. Hein, je me lance dans une nouvelle aventure.
Ah, il y aura avec une tournée ou ce sera?
Ah oui, certainement. Certainement. Pour l'instant, on est dans l'écriture avec Jérémy Ferrari. On est au tout début, on est au balbutiement. On rigole beaucoup, on jette beaucoup de choses, mais on se prépare.
Quand on voit à quel point vous êtes à l'aise quand vous faites des conférences, on se dit qu'il n'y a pas de souci, quoi. Enfin, c'est.
Ben, je l'espère de tout cœur, mais c'est différent. Donc, faut se préparer, vraiment.
D'autres projets, sinon j'ai cru comprendre, il y a eu une demande en mariage qui a été faite à l'arrivée du Dakar. Philippe Croizon, vous allez vous marier, c'est ça, bientôt?
Bien, oui, Susanna, c'était prévu, mais on a eu notre garçon, le plus grand, qui lui aussi a annoncé qu'il allait se marier. Et du coup, on a préféré lui laisser la place.
La priorité pour l'instant, exactement. Ouais. Mais ça va venir, on verra. On verra. Pour l'instant, il nous a coupé l'herbe sur le pied.
C'est-à-dire que
vous
êtes en train d'imaginer, j'imagine, un mariage. Bah, ça va pas être un truc ordinaire. Ça va être encore un exploit pas possible. Ça va être dans un cadre particulier, c'est ça?
Écoutez, on doit partir en Guyane bientôt. On espère peut-être un mariage sur la Lune. On verra, mais c'est un objectif.
J'avais vu aussi la traversée du lac Titicaca. Ça faisait partie des projets. Oh là, c'est fini, ça.
Mais là, vous avez sorti ça des tiroirs.
Non, j'ai lu vos livres.
Mais ça n'existe plus. C'est fini. Je nage plus. J'ai arrêté la nage. Parce que j'ai voulu protéger maintenant Susanna et ma famille. La natation, c'était beaucoup trop compliqué. Ouais.
Donc ça, c'est fini. Le Dakar avec les deux fistons.
Exactement.
Et un mariage. Moi, je vais rappeler quand même effectivement qu'il y a ce livre qui est à lire absolument. Ma vie pour deux, Susanna Sabineau, avec déjà beaucoup de réactions du public.
Un très, très bon livre. Et puis j'ai aussi une page Facebook, Ma vie pour deux, venez liker.
Voilà, ça c'est
bravo,
fait.
Chérie.
Ça c'est fait aussi. C'est chez Artaud. Plus fort la vie, Philippe Croizon. C'est toujours le dernier ouvrage. C'est chez Artaud.
C'est chez Artaud également. Oui, donc les deux livres, Plus fort la vie et Ma vie pour deux, dans l'ombre du héros, une femme. Vraiment à conseiller à tous les aidants et à toutes les personnes handicapées qui se rendent pas bien compte que leur mari ou leur épouse sont à côté d'eux, mais des fois ils les aiment tellement qu'ils les protègent, ils les cocoonent, mais eux sont en souffrance. Et ce livre est vraiment important pour eux.
Et même si il y a eu des remarques un petit peu difficiles, vous ne les avez pas mal prises?
Non, parce que je serais qui pour prendre mal ce qu'a vécu Susanna et ce qu'elle a retranscrit dans ce livre-là? Je serais un monstre si j'avais pas compris. Et au contraire, honnêtement, ce livre nous a sauvés. Nous a vraiment sauvés. Parce que c'était tellement dur. Susanna a tellement souffert pendant toutes ces années d'entraînement qu'elle avait pu, elle savait plus si elle devait prendre la parole ou pas. Et elle l'a écrit et ça nous a fait du bien à tous les deux.
Eh ben, bravo et merci. Merci Susanna Sabineau. Merci beaucoup, Philippe Croizon, d'être venus tous les deux ce soir. Dans quelques secondes, il y aura le journal de 19h et puis à 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on se pose la question: à quoi sert le Parlement européen et comment fonctionne-t-il? Le numéro pour interroger nos invités, c'est toujours le même, le 01 45 27 7000.